Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral pour cette émission mensuelle Un moment pour la Terre, préparée et proposée par France Nature Environnement 04. Et aujourd'hui, donc, c'est Lisa Cunier qui est présente, ainsi que Christophe Lucars. Je vais vous laisser vous présenter et présenter France Nature Environnement en quelques mots. Et puis, le sujet fort intéressant encore sur la sécurité des données personnelles, comment se protéger et les logiciels libres. Lisa.
Tout à fait. Bonjour Odile. Alors, je suis Lisa Cunier, la chargée de mission chez France Nature Environnement 04. Pour faire un petit rappel, France Nature Environnement 04, c'est une fédération départementale. Fédération des associations de protection de la nature. Nous agissons sur tout le territoire du département et nous essayons de travailler sur la protection de l'environnement à toutes les échelles. D'où on aura le sujet d'aujourd'hui qui, à premier abord, peut avoir moins de liens avec la nature ou l'environnement. Nous allons parler de la sécurité de nos données personnelles sur Internet. Et des logiciels libres qui peuvent nous permettre des fois de renforcer cette sécurité, ainsi que un petit peu de l'impact environnemental de toutes nos activités sur Internet et sur l'ordinateur. Donc avant tout, je pense que la question s'impose, mais pourquoi France Nature Environnement 04 est là pour parler informatique ?
Oui, on n'est pas habitué.
Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'impression que Internet, le côté informatique, ça n'a pas de lien direct avec l'environnement. Mais c'est sûr qu'indirectement, tout notre mode de vie et notre mode de consommation, ça impacte toujours l'environnement et la nature. Là, nous allons parler de la consommation informatique. Dans notre association, nous utilisons pas mal de logiciels, d'outils numériques dans notre travail. Par exemple, nous coordonnons beaucoup en passant par les emails, en passant par notre boîte mail. Nous utilisons aussi l'espace de stockage et de partage. Bon, pour le moment, c'est Google Drive pour que tous nos administrateurs puissent avoir accès à tous nos documents de travail. Et nous utilisons aussi Facebook pour communiquer sur nos événements. Et tous ces outils sont vraiment indispensables pour nous. Par contre, nous nous rendons de plus en plus compte du fait que, de l'insécurité de toutes les données que nous mettons sur Internet. Et nous voudrions changer cet état de choses. Nous voudrions proposer, assurer plus de sécurité même à nos adhérents ou aux gens qui nous passent leurs informations. Et c'est pour ça que nous nous sommes adressés à Christophe des outils conviviaux pour lui demander de nous parler des points de vigilance liés à l'utilisation des géants du web comme Google ou Facebook. Alors, je pense que Christophe pourra nous en dire un peu plus parce que moi, je ne suis pas encore très calée question technique.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie pour cette invitation et je suis content de voir que ça prend un peu plus d'ampleur en termes de communication, les données personnelles, qu'on commence à s'en rendre un peu plus compte de jour en jour. Et du coup, je suis content aussi de la collaboration avec FN04 qui, du coup, a mis le premier pas dans cette démarche. Donc, Lisa parlait de sécurité par rapport aux données. C'est pas vraiment une question de sécurité, c'est plutôt une question d'utilisation des données. C'est-à-dire que comment Google, Facebook et compagnie, qu'on appelle du coup les GAFAM, pour Google, Facebook, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, collectent, on va dire, un certain nombre de données à travers tous leurs services et vont utiliser toutes ces données pour justement nous profiler. Donc ce que j'appelle profiler, c'est essayer de savoir qui nous sommes. En fait, quand je parle de ces données personnelles, la première chose que j'entends, c'est « Ah bah j'ai rien à cacher, ma vie elle est normale, j'ai rien à cacher, j'enfreins pas la loi, etc. » Alors, ce n'est pas vraiment une question d'avoir quelque chose à cacher ou pas. C'est juste qu'on utilise ces données pour savoir qui vous êtes. Et en fonction de qui vous êtes, en fait, on va vous proposer ou vous essayer de vous insinuer un certain nombre de choses. Donc, ça peut aller, pour l'instant, la majeure partie des citoyens est plutôt confrontée à la publicité. Si on va parler de certaines choses sur Internet, en fonction des mails qu'on va envoyer, des mots-clés qu'on va utiliser sur les moteurs de recherche, on va nous faire afficher de la publicité qui sont en relation avec ce qu'on a mis.
Oui, c'est toujours assez surprenant, la rapidité. Dès qu'on va chercher des renseignements, on a tout de suite la publicité.
Exactement. Ouais. Il y a des sociétés du coup, qui sont justement spécialisées là-dedans, évidemment, qui captent un peu ce qu'on y met comme mots-clés, et qui repèrent où vous êtes, qui vous êtes, et qui ensuite revendent de la publicité, des espaces publicitaires sur les pages que vous visitez pour voir ces publicités. Ça, c'est globalement l'aspect où on est le plus confronté. Après, ça peut aller beaucoup plus loin sur le fait de nous évaluer pour l'obtention d'un travail, d'un crédit, des assurances automobiles ou habitation, etc. Ça peut aller encore plus loin sur le côté un peu surveillance, sur le militantisme, essayer de détecter qui se bat pour telle ou telle cause et essayer de les neutraliser, entre guillemets. Et puis après, on voit encore plus loin Cambridge Analytica dans la campagne présidentielle aux États-Unis, où justement il y avait une sorte de manipulation pour essayer de faire voter certains États, enfin certaines personnes indécises dans certains États pour gagner des voix. Et bon, on ne sait pas si vraiment Trump a gagné grâce à ça, mais n'empêche qu'il a été élu. Donc voilà, après, il y a plusieurs niveaux, et puis quelque part, c'est aussi prendre le pouvoir par rapport aux données, parce que si les GAFAM ont plus d'informations que nous, ils ont plus de pouvoir, parce que l'information, c'est le pouvoir.
Tout à fait.
Voilà un résumé un peu... Le « j'ai rien à cacher », c'est pas valable, c'est pas ça qui compte. C'est que les GAFAM ont une base de données sur nous. Et d'ailleurs, j'étais justement en faisant cette conférence assez étonné de voir qu'il existait en fait des courtiers en information, c'est-à-dire que des sociétés qui ne font que accaparer des données personnelles et les revendre. Et apparemment, donc il y a une société Axiom qui est aux États-Unis qui détient. C'était où mon chiffre ? Détiendrait en moyenne 3000 segments de données sur la quasi-totalité des consommateurs états-uniens. C'est-à-dire qu'en gros, tous les Américains ont un peu un profil qui est utilisé par qui voudra acheter les données.
Eh oui. C'est affolant. Que faire ?
Et justement, dans la conférence que j'ai donnée à FNE04, on parlait justement de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour décider si quelqu'un était correspondait au poste. J'ai reçu quelques jours après un email d'une société qui faisait ça et qui disait « Ah, mais on peut vous aider à trouver le bon profil pour votre société, etc. » Alors bon, c'était un peu c'est marrant de voir ça. Donc je disais que ça n'existait pas. En fait, je dis que ça existe, en fait. Donc ça peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que les données personnelles, c'est une chose. Les algorithmes, c'est justement ce qui va manger un peu ces données personnelles. Et puis en faire une décision. Décision, il est bon pour ce poste. Ou alors... vous êtes éligible à ce crédit, vous pouvez aller dans telle université, etc. Typiquement, Parcoursup, qui est du coup l'algorithme pour décider des études supérieures après le bac, est un algorithme. D'ailleurs, ça a fait quand même pas mal de problèmes parce que finalement, il y en a plein qui se sont retrouvés sur le carreau où l'attente était très longue, etc. Ce qui est un bon point, c'est que l'algorithme, le code de Parcoursup est disponible sur Internet. Justement sur un outil mis à disposition par Framasoft. Et du coup, il est librement accessible sur le net. Enfin, une partie, pas tout, mais en tout cas, une partie est accessible sur le net. Donc ça, c'est un bon point. Ça, c'est un algorithme qui va décider, donc c'est une machine, c'est un code qui va dire « Ah ben, lui, il va aller là, etc. » Et l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle aussi beaucoup, c'est en fait, c'est comme un algorithme qui va apprendre de lui-même et qui va dire, ah bah tiens, là j'ai fait un truc, ah bah peut-être qu'avec des données supplémentaires, je vais apprendre qu'en fait, il fallait peut-être pas faire ça, mais ça. Et du coup, il va apprendre et faire des autres décisions. Et du coup, contrairement au code, à l'algorithmie, où c'est quand même la personne qui écrit le code qui est en mesure de savoir ce que ça va donner, même s'il ne connaît pas tout, l'intelligence artificielle, ça va au-delà de ça. On perd un peu le contrôle de la décision parce que c'est pas nous, c'est pas l'algorithme qui décide, c'est l'intelligence artificielle implémentée par cet algorithme qui va décider. Donc du coup, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a les données personnelles, on récupère qui on est, il y a des algorithmes qui vont manger ces données personnelles, et après, il y a l'intelligence artificielle au-delà de ça qui va compiler tout ça et qui va en fait aller dans une certaine direction qu'on n'aura pas forcément contrôlée. Donc tout ça pour dire que ça fait un peu... Ouais, on peut aller vers Big Brother quelque part. Enfin, on est dans les capacités techniques aujourd'hui de faire un système Big Brother. Alors qu'avant, on n'était pas forcément au temps de la guerre, quand il y avait des espionnages, il y avait des écoutes, mais ça restait techniquement assez difficile. Aujourd'hui, c'est très facile. Le smartphone est un miracle de mouchard. Et du coup, bah, c'est très facile d'obtenir beaucoup de données par rapport à l'utilisation du smartphone. Mmh. On peut vraiment profiler des gens juste à travers l'utilisation du smartphone, pas forcément une application, mais... Et bah, savoir où vous êtes, qui vous êtes, à qui vous parlez, comment vous l'utilisez, etc. Et il ne faut pas sous-estimer ce qu'on peut détecter à partir de ça, de ces données personnelles, en utilisant un smartphone.
Ça fait peur.
mais non, il ne faut pas avoir peur. En fait, il faut juste être informé pour savoir comment on peut agir, pour savoir ce qu'on peut faire et surtout pourquoi on fait ça. D'ailleurs, il y avait aussi un autre point très intéressant pendant la conférence, c'est quand Christophe, en effet, il nous a parlé de Google, de Facebook, en expliquant que sur Google ou sur Gmail, par exemple, donc la boîte email de Google, qu'il existe aujourd'hui des algorithmes qui peuvent analyser les mails qu'on envoie et en retirer les informations. Bon, c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne qui va lire nos mails, mais...
Du coup, c'est un algorithme, pour le coup.
Oui. et que sur Facebook, par exemple, on le sait, mais je ne sais pas si on s'en rend compte ou pas. Dès qu'on met quelque chose sur Facebook, déjà, cette information ou cette image ou cette musique, ça appartient à Facebook. Ce sont les conditions d'utilisation de Facebook qu'on signe quand on s'inscrit. Et en plus, quand on veut supprimer quelque chose, par exemple une photo de nous, parce qu'on n'a plus envie que les gens... sache ou que Facebook sache quel est notre visage, parce que aussi avec la reconnaissance faciale, ça peut aller très très loin.
Ouais.
Du coup, ces données-là ne sont pas réellement supprimées de Facebook. Elles ne seront plus visibles pour nous, mais si, c'est ce que Christophe disait, c'est qu'il avait fait un test, il avait copié le lien d'une photo, après il l'a supprimé. Donc sur Facebook, elle n'était plus visible. Par contre, quand il rentrait ce lien dans le navigateur, il voyait toujours cette photo. Donc ce sont les données qui sont gardées, bon, sans aller jusqu'à éternellement, mais qui restent là pendant très très longtemps. Et oui, une autre phrase qui m'a beaucoup plu, et après peut-être qu'on pourra faire une pause, c'est quand, pareil, Christophe a dit que si... nous utilisons des services sur Internet et que ces services sont gratuits, c'est que la marchandise, c'est nous, c'est nos données personnelles qui sont en jeu, qui sont en quelque sorte en vente. Et c'est avec ça qu'on paye l'utilisation de ce service. Voilà. Et après, on passera aux solutions, parce que là, c'est vrai qu'on a pu dessiner une image un peu sombre de nos jours.
Oui, on a envie de reprendre le stylo et de faire travailler la poste à nouveau.
Oh, mais il y a des moyens, c'est pour ça qu'on est venu ici, c'est pas juste pour dire que tout est horrible et on s'en sortira jamais, mais c'est qu'il y a des moyens, il y a des outils, des logiciels alternatifs qui peuvent nous donner, on peut dire, un peu plus de liberté ou un peu plus de maîtrise de nos données.
On en parle donc juste après cette chanson que vous avez choisie pour nous, l'informatique chanson plus bifluorée. Voilà, à tout de suite.
Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué. Les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps? J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit:
je préfère ta bécane, allons chez toi, fais-moi surfer.
Hélas, ma machine est en panne. Galère. Que je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, la mémoire sans espoir, les options en options, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, moniteur et ta soeur. En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quel souci. Les octets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, l'MS-DOS qui a des bosses, les menus mal foutus, le logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens, c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans.
Et voilà, c'était donc une chanson bifluorée. Alors on reprend avec le côté encore un peu sombre de
oui, le... Oui, je voulais juste rajouter quelque chose qui est finalement assez frappant. Je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez l'épisode de la série Black Mirror, donc qui est une série diffusée par Netflix. Il y a un épisode qui s'appelle Nose Drive et qui justement c'est l'histoire d'une personne qui vit un peu à travers son smartphone parce qu'en fait les gens sont évalués les uns avec les autres. Par exemple, si quelqu'un vient m'offrir un café, bah, je vais le noter en lui mettant 5 étoiles sur 5 pour dire « Ah, c'est super sympa », etc. Et du coup, bah, les uns se notent par rapport aux autres, donc ça fait une sorte de notation totalement entre les citoyens. Et puis finalement, quand on regarde un peu l'actualité, ben, en Chine, il y a un peu une sorte de contrôle social un peu de cette manière-là, à savoir que si le citoyen se comporte mal, eh ben, du coup, il va perdre des points, il va avoir une sorte d'échelle, donc c'est une sorte d'application sur un smartphone, et il va dire « Ah bah tiens, là j'ai gagné des points, là j'en ai perdu », et s'il a une note trop basse, il y a certains droits qui lui sont retirés. Il peut pas prendre le train, il peut pas prendre l'avion, etc. Du coup, c'est une forme de contrôle social. Et ça, c'est pas seulement dans un épisode. C'est pour l'instant une réalité. Alors, ça va peut-être pas aussi loin que dans Black Mirror. Sauf que pour l'instant, ça existe. Bon, voilà. C'était juste pour assombrir encore un petit peu le tableau.
Avant de nous donner des solutions.
Par exemple. Donc, en termes de solutions, Outils Conviviaux est une association qui propose, est un hébergeur libre et associatif. Donc hébergeur, ça veut dire que du coup, on a des applications, on héberge, donc on a des serveurs. Enfin, on loue des serveurs en France, où on va mettre des sites internet, des systèmes de partage de fichiers, des calendriers, des galeries de photos, etc. Enfin, un peu comme des services que fournirait Google, par exemple. Du coup, qui sont en logiciel libre, évidemment. Donc on héberge ça, libre, parce qu'on utilise du logiciel libre. Toute l'infrastructure qu'on utilise pour les serveurs, pour l'administration, est du logiciel libre. Et puis associatif, parce qu'on est sous une forme associative. On fait partie également d'un collectif qui s'appelle Chaton. Donc c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Voilà.
C'est pour faire simple.
Pour faire simple. Mais voilà, Outils Conviviaux est un chaton. Mm-hmm. Et du coup, c'est, ouais, comme son nom l'indique, c'est un collectif d'hébergeurs, un peu comme Outils Conviviaux, qui a pour but de, justement de décentraliser l'utilisation des services sur Internet. Donc Google, Facebook et compagnie, en fait, vont centraliser, c'est-à-dire que tout le monde va aller là-bas pour aller héberger ses données, etc. Et Chaton a pour but de, justement de décentraliser. C'est-à-dire que c'est un peu comme, si je devais faire un parallèle, c'est un peu comme la consommation alimentaire. Un hypermarché, bah, c'est un peu comme Google. Tout le monde y va, on y trouve tout, tout va bien. Et par contre, aujourd'hui, bah, y a les AMAP qui commencent à se développer. Donc les AMAP, c'est quoi ? C'est des petites relations entre producteurs et consommateurs, des circuits courts. Bon, on peut dire que les chatons, c'est un peu c'est le circuit court de l'informatique. C'est-à-dire que nous, on va proposer un certain nombre de services, et des gens qui nous sont un peu proches, bah, du coup, par exemple FNE, bah, va venir s'adresser à nous en disant « Ah ben... on aimerait bien avoir un partage de fichiers, bon bah tiens, on peut vous mettre ça, calendrier partagé, on peut vous mettre ça, etc. » Et du coup, bah, ça permet de, au lieu de tout donner à un hypermarché, Google, eh ben, on va à différentes AMAP. Et le tout, c'est qu'il y en a plein d'AMAP. Donc globalement, là, pour l'instant, je pense qu'on est une cinquantaine de voire même plus peut-être, en France, de chatons, qui proposent des services tous un peu différents. Nous, à Outils Conviviaux, on partage donc des listes de diffusion, on met à disposition des listes de diffusion, des sites internet, des galeries web, des calendriers partagés, et puis des partages de fichiers. Donc ça, c'est ce qu'on propose. Mm-hmm. Et il y en a d'autres, chatons, qui vont proposer, eux, des mails, d'autres services, typiquement Framasphere, du coup, bah, Framasoft, disons, est une association qui propose pas mal de nouveaux services, enfin de services qui permettent d'être un peu alternatifs à Google.
Les avantages pour le consommateur ?
Les avantages, ben, c'est que du coup, il ne se fait pas voler ses données personnelles.
Oui.
La contrepartie, c'est que c'est peut-être moins ergonomique que des outils comme Google. C'est-à-dire que ça va être un peu... ça dépend. Ça dépend lesquels. Par exemple, là, je pense qu'on est assez habitué à Framadate, par exemple, qui est assez utile, assez facile, et je pense que l'alternative à Doodle. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Framacalc, par exemple, est un peu plus technique à utiliser que la Google Sheet partagée sur Google, par exemple.
En fait, aussi pour parler de l'intérêt de décentraliser les données, il y a quand même moins de danger de piratage de nos données, car du coup... le ratio effort-résultat obtenu sera pas du tout rentable pour les pirates informatiques, contrairement à la situation où ils vont pirater les comptes Google, et du coup, ils auront tout de suite, d'un coup, accès à beaucoup d'informations de beaucoup de gens différents. Du coup, vu que c'est petit, pareil, on peut continuer la comparaison avec les hypermarchés et les AMAP. Bon, braquer un hypermarché, ce sera toujours plus rentable pour les criminels que braquer les petits AMAP. Donc déjà, dans ce sens-là, nos données sont quand même plus en sécurité, plus protégées. On peut être moins victime de ce piratage de données, de son utilisation pour célébrités, pour quelques stars. On a entendu certains scandales avec la publication des photos personnelles. Donc pareil, il y a moins ce danger-là.
Oui.
Oui.
Donc, voilà, c'est très intéressant. Sauf que après, quand il y aura de plus en plus de d'AMAP, est-ce que ce sera
plus il y aura de circuits courts et puis plus, plus ce sera compliqué de venir donner les. Enfin, le problème c'est la centralisation, c'est le fait que aussi on puisse croiser les données. C'est-à-dire que si on a un jeu de données d'un site et puis un autre jeu de données d'un autre, le fait de les coupler, ça permet d'en tirer de nouvelles informations. Et c'est pour ça que Google se diversifie beaucoup. C'est parce que avec YouTube, il va avoir les vidéos, avec les calendriers, il va avoir l'agenda personnel, avec les recherches, les envies de chacun. Et du coup, en croisant tout ça, on arrive à avoir un profil beaucoup plus précis. En décentralisant et en découplant justement tout ça, en utilisant un truc ici, un truc là, etc. Si vous utilisez des services chatons, ils vont pas utiliser les données personnelles, donc ils vont sûrement pas les croiser, évidemment, puisqu'ils ne l'utilisent pas. Mais ça permet, ça évite à Google, par exemple, de croiser ces données-là et d'en tirer des nouvelles informations. Donc, encore une fois, c'est la protection des données personnelles. Moi, je ne parlerai pas de sécurité, mais plutôt de protection.
Oui, tout à fait.
Parce que la sécurité, ça va être comment un pirate va venir accéder aux informations. Donc, pouvoir voler des données personnelles, des emails, des cartes bancaires, etc. Et la protection, c'est plus essayer de faire en sorte que nos données personnelles ne soient pas utilisées. Donc, c'est juste un point technique de vocabulaire.
Oui, merci. Merci de nous le rappeler. Après, l'intérêt aussi pour les utilisateurs, il y en a plusieurs. En parlant du croisement des données, c'est ça le bon terme?
Oui.
Si je ne me trompe pas, la loi française nous protège de croisement pour les hébergeurs français?
Normalement, le croisement d'informations est interdit en France.
Mm-hmm. Donc, quand on a un hébergeur français basé en France, on peut quand même se dire aussi qu'on est un peu plus protégé que quand c'est un hébergeur américain qui répond aux lois américaines.
Effectivement, donc ça veut dire que tous les services qu'on va utiliser dans les GAFAM, les serveurs et les législations qui s'y appliquent sont globalement aux États-Unis. Donc ça veut dire que toutes les informations qu'on va y mettre sont sous législation américaine. Mm-hmm. Donc ça veut dire que du coup, vu que quand on signe les conditions générales d'utilisation que tout le monde a lues ici, bien sûr...
Les 18 pages avant de mettre j'accepte.
Voilà, j'accepte, et puis dans du vocabulaire toujours très clair, très précis, etc. Donc ça, il y a beaucoup de... Enfin, dans ces données-là, il y a dans ces conditions générales d'utilisation, souvent il y a écrit qu'on lègue finalement les photos, tout ce qu'on met en fait va appartenir au service. Donc oui, j'ai envie de dire aussi un truc en passant, une petite parenthèse. Sur Facebook, quand on voit des gens qui disent « oui, copyright, machin, tout ça, c'est à moi, on ne peut pas utiliser », non, c'est déjà trop tard, parce que la personne qui a mis sa photo a déjà signé un contrat qui a dit « je donne cette photo ». Donc ça ne sert à rien de dire ça, parce que vous êtes déjà dit oui à ce service. Ah. Donc ça ne sert à rien. Bon, bref. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Bon, donc, les intérêts...
Juste aussi, voilà. Peut-être quelques mots sur le côté, sur la raison éthique de notre passage de FNE 04 aux outils conviviaux.
On rappelle, FNE 04, c'est France Nature Environnement. Ne jamais confondre avec les deux premières lettres.
Ah non, voilà. Rien à voir. Donc oui, tout à fait. Les raisons du passage de France Nature Environnement 04 aux outils conviviaux, parmi ces raisons-là, il y a aussi une raison éthique. Donc ça veut dire que nous avons plus envie d'avoir affaire à une entreprise ou une association à taille humaine, qui est local, que nous connaissons. Ce ne sont pas les machines sans visage, les algorithmes. On ne sait pas ce qui se trouve derrière. On ne sait pas qui les a écrits, qui nous répond quand on a un problème technique, vers où vont nos demandes, nos mails, ce qui se passe avec ça après. Nous avons vraiment envie... de rester à cette taille humaine pour aussi faire le poids un petit peu contre les multinationales qui se trouvent à l'autre bout de la planète et du coup qui sont tellement déconnectées des consommateurs informatiques, on va dire, qui n'ont plus que cette logique purement commerciale. Contrairement à ça, là, nous avons vraiment la logique humaine. Nous avons une association qui est implantée sur notre territoire, avec qui on peut construire un projet pertinent, qui connaît nos réalités. Et du coup, quand on a un problème technique, nous savons qui exactement va être derrière, de l'autre côté du mail ou du téléphone, pour répondre à nos questions ou pour nous aider. Donc ça, c'est vraiment la possibilité qui est assez agréable et aussi, bah, comme le nom des outils l'indique, cette possibilité elle est très conviviale. Donc on reste, on garde cette communication et c'est ce qui devient assez important aujourd'hui. On parle beaucoup de l'éthique de solidarité, de convivialité et c'est ce qui est aussi très important pour nous, de garder ce côté convivial pour nous, tout comme pour nos adhérents ou pour les gens qui ont confiance en nous. Et du coup, rester voilà, au niveau local, et à taille humaine.
Je pense que c'est cette dimension de compréhension aussi et de sensibilisation est importante. Et le logiciel libre, quelque part, c'est aussi cette démarche-là. Essayer de comprendre ce qu'il y a sous le capot, quelque part. Et le fait de s'en remettre à justement tous les géants du web, et justement, c'est leur but, c'est de faire des choses extrêmement simples pour que ce soit utilisable hyper facilement, sans manuel d'utilisation ou quoi, et puis que ce soit intuitif. Et ce qui est un peu contre-intuitif, justement, c'est que faire quelque chose de simple, comme Google le fait, c'est très compliqué. C'est faire une interface graphique qui soit intuitive, que les gens disent « Ah bah oui, il faut cliquer là, machin, pouf, pouf ». Eh ben, c'est des années de travail et, avec des développeurs qui sont très, très pointus. Donc, c'est pour ça que ce travail-là, c'est pour ça que l'ergonomie est peut-être un peu moins bonne sur les logiciels libres, parce que la force de développement n'est pas la même. Les gens qui travaillent, ben, il y en a moins, ils sont moins bien payés, etc. Et du coup, ben, c'est plus dur de faire des trucs intuitifs. Et donc, je voulais revenir sur le fait que c'est important de savoir ce qu'il y a derrière. C'est comme, c'est, encore une fois, je reprends le lien avec l'alimentaire. Quand on regarde ingrédients, voilà, c'est trié dans l'ordre, machin. Et puis, huile de palme, tout ça. Et ben, les services informatiques, c'est un peu pareil. Il faut savoir par qui ils sont édités, quels sont leurs modèles de fonctionnement. Enfin, business model, je ne sais pas en français.
Oh, oui.
Modèle économique, voilà. Modèle économique de comment eux, ils financent ce truc-là. Par qui c'est utilisé, pourquoi, qui est derrière et comment ça marche. Bon, comment ça marche, ça c'est vraiment pour ceux qui sont pour la technique, mais en gros, voilà, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, ben c'est un peu l'idée. Essayez de voir, c'est pour ça que à partir du moment qu'on a des services payants, ok, c'est payant, mais au moins on ne paye pas de sa personne.
Bien. est-ce que. L'heure tourne, est-ce qu'on peut faire un résumé et puis éventuellement donner quelques références pour avoir plus d'infos?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, déjà, je voudrais parler de quelques événements qui seront organisés avant la fin de cette année.
Oui.
Comme nous avons déjà dit la semaine dernière, nous avons organisé une conférence au mai sur la protection des données personnel sur Internet. Cette conférence, on va la refaire aussi. On n'a pas encore de date précise, mais ce sera sûrement avant la fin de l'année.
Et ce sera où ?
On travaille là-dessus. Ça, on donnera les informations un peu plus tard. C'est juste que pour dire aux gens qui qui ont aimé, qui ont été intéressés là par la conférence et qui n'ont pas pu venir ou qui sont intéressés maintenant après cette émission, qu'il y aura encore la possibilité de venir participer, discuter, poser toutes les questions. Et tout ça, c'est dans le cadre de d'une formation qu'on organise cette année pour nos bénévoles pour améliorer leur connaissance des outils numériques, des logiciels numériques, et pour qu'ils puissent, pour qu'on puisse avoir un fonctionnement plus collaboratif dans notre association. Donc c'est une formation pour nos bénévoles avec des conférences et des ateliers de prise en main de ces outils. Donc Christophe a aussi nous proposé quelques sessions des ateliers pour qu'on sache utiliser ces outils. Et il y aura aussi une projection d'un film à Digne.
Oui, bah, je peux en parler. Oui. Du coup, c'est le 6 novembre. C'est organisé en fait par l'espace numérique Lumen. Donc c'est avec la mairie. La mairie. Et du coup, ça va s'intégrer aux rencontres cinéma au centre culturel René Char. Et ça se passe le mardi 6 novembre à 20h30. Donc, suivi d'un débat animé par moi-même. Je fais ma propre promotion.
Donc, on va redire votre nom, Christophe Lukartz.
Voilà, c'est ça. Et le film projeté, ça s'appelle Nothing to Hide. Et c'est un film, en fait, qui a été fait sous licence libre, donc du contenu libre, et qui a été financé par des dons, justement, pour faire ce film-là, pour parler des données personnelles et leur protection.
En version originale
Nothing
to Hide. Ouais.
Sous-titré.
C'est ce que je voulais demander quand même.
Sérieux?
Oui.
Ouais, d'accord.
Bon, donc, sous-titré, c'est bien pour mieux comprendre.
Un film documentaire.
Oui, voilà. Sur la protection des personnes. Qui est assez bien fait et qui, moi qui connaissais déjà un petit peu le domaine, le fait d'avoir lu ça, enfin vu ce film-là, ça m'a quand même appris pas mal de choses et ça a noirci encore un peu le tableau.
D'accord. Oh, après, voilà, c'est cette session de formation ainsi que la projection et les débats autour du film, ça permettra aussi de refaire le point sur tout ce que nous pouvons faire pour contrebalancer, pour changer cet état de choses, tout ce que nous pouvons faire au quotidien, quel navigateur, quel moteur de recherche on peut utiliser pour mieux protéger nos données, pour ne pas les passer directement à Google, quel autre outil, quel autre logiciel on peut utiliser, nous tous, dans notre vie quotidienne. Parce que c'est sûr que voilà, quand on ne comprend pas pourquoi et quand on n'en sait rien du tout, c'est pas évident de se dire « Ah oui, c'est vrai que je vais passer au logiciel libre ». Par contre, plus on a d'informations, plus on a de compréhension de ce qui se passe, plus on se dit « Ah, peut-être que là, je peux utiliser... un autre moteur de recherche, là je peux utiliser un autre espace de stockage, là je peux faire appel à une association locale pour qu'elle héberge mon site. » Et du coup, tout ça, petit à petit, ça peut nous aider à protéger nos données, notre vie personnelle, pour que voilà, ce ne soit pas un livre ouvert pour toutes les entreprises de marketing, de publicité, pour toutes les entreprises qui veulent nous vendre des choses, qui veulent influencer notre opinion. Comme ça, on aura plus de contrôle, plus de maîtrise de notre vie et de nos données.
Eh bien, j'ai juste envie de vous dire, vous savez que nous mettons en ligne l'émission et les photos sur notre site. Alors, est-ce que ça vous pose problème aujourd'hui?
Tant que vous n'utilisez pas les données à des fins publicitaires ou de manipulation, ça me va.
Bon.
Je peux juste donner le lien par rapport à le lien du collectif Chaton. Donc, c'est très simple, c'est chaton, comme chaton au pluriel, .org. Chaton.org. Du coup, vous tomberez sur justement ce collectif et vous pouvez chercher en fait un service que vous avez envie d'être hébergé par un des chatons. Du coup, ça va vous donner une liste des gens qui font ce service-là. Alors, peut-être pas les services, mais en tout cas par zone géographique ou choses comme ça. Et après, il faudrait voir sur chacun des trucs. Enfin, voilà. C'est juste un site qui explique la démarche et qui montre quels services sont hébergés par quel chaton. Et du coup, c'est un peu comme une liste d'AMAP.
D'accord. Ouais. Eh bien, c'est intéressant. Chaton au pluriel, .org. Et puis, on rappelle aussi le site de France Nature Environnement. C'est très simple.
C'est FNE, comme France Nature Environnement, 04.fr. Est-ce que je pourrais terminer sur les quelques annonces des événements à venir ?
Allez-y, Lisa.
Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on a beaucoup de choses, beaucoup d'événements à venir la fin septembre, début octobre. Comme j'ai dit, cette année, nous proposons deux sessions de formation pour nos bénévoles. La première, c'est sur la protection des données personnelles avec l'association Outils Convivio.
Mais c'est-à-dire que c'est privé, c'est pour vos bénévoles.
Alors, c'est pour les bénévoles, c'est pour les membres de nos associations adhérentes, dont nous avons 14 aujourd'hui. Et après, tout le monde peut adhérer sur place. L'adhésion à FNE 04 coûte 10 euros à l'année. Et comme ça, les gens ont accès à
ces formations,
à toutes les deux sessions de formation de 5 journées chacune.
D'accord.
Donc la première, c'est sur la protection des données personnelles. Et la deuxième, c'est sur l'utilisation de l'art, des moyens artistiques, dans la sensibilisation, sur nos stands, pendant les événements. Donc c'est pour aider aussi nos bénévoles à s'épanouir, à leur donner des moyens artistiques, toujours très responsables par rapport à l'environnement. Et ce samedi 29 septembre, à Rayanne, à 14h30, il y aura la conférence atelier sur la thématique « La couleur dans la nature et ses transformations » qui sera proposée par l'association ONIL. Donc il y aura la partie conférence et il y aura aussi une partie pratique où nous allons faire en nuancier à partir d'un carré de sol et de sa végétation. Après, évidemment, nous allons participer au festival Inventaire à Digne qui a pour thématique cette année « L'eau, cœur de nos vies ». Et nous proposons une conférence mercredi 3 octobre à 18h30 au Centre culturel René Char. La conférence sur l'eau et montagne, quelles activités économiques face au changement climatique. Donc nous allons avoir plusieurs intervenants du groupe d'experts sur le climat de la région sud, du service montagne de la région et également un microbiologiste du sol qui viendront parler des moyens de peut-être mieux utiliser les ressources en eau dans les conditions de changement climatique. Et la dernière chose, dimanche 14 octobre, nous participons à la fête de la science avec le musée Gassendi et le Cairn Centre d'Art. Et nous allons organiser un après-midi forestier. Donc nous allons parler de la forêt. C'est l'art et la science qui nous permettront de découvrir les forêts d'aujourd'hui et d'autrefois autour de Digne, les dangers qui les menacent. Et on parlera aussi des sciences participatives qui nous permettent à nous tous de nous impliquer dans l'étude de la forêt pour mieux la comprendre et mieux la préserver.
C'est tout ? Ça y est ? Eh bien, c'est super. Bon, on retrouvera de toute façon toutes ces informations sur votre site France Nature Environnement.
.fr,
voilà, fne04.fr. Merci Christophe Lucas pour ces belles informations et Lisa Cunier et puis donc aussi chaton.org pour en savoir plus sur les outils conviviaux.
Alors le site de l'asso c'est outilsconviviaux.fr.
Oui.
outils-conviviaux.fr. Et ça, c'est le site nous. Et puis, le collectif, c'est chaton.org.
Très bien. Merci.
Merci à vous.
Et bien, bonne journée.
Merci beaucoup, Odile.
Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.